Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Carinane, bonjour.
Bonjour.
Vous vous passionnez depuis de nombreuses années pour l'œuvre de Marcel Pagnol, dont on commémore le 50e anniversaire de la mort. Vous lui avez consacré vos études à la Sorbonne, votre mémoire de maîtrise, vos recherches de doctorat et un livre, Marcel Pagnol, un autre regard, qui vient d'être réédité en poche chez Litos. 50 ans après sa mort, Pagnol est toujours aussi populaire ?
Toujours aussi populaire. Il fait partie des 50 auteurs classiques les plus lus. Donc c'est quand même une belle performance. Et il est toujours aussi populaire, probablement aussi, parce qu'il est intemporel et universel, donc il traverse le temps.
Alors justement, c'est une question de temps que j'ai envie de vous poser, parce que pour moi, il y a trois Pagnols. Il y a d'abord l'auteur de théâtre, qui connaît son premier succès à 33 ans, avec Topaz, puis le Triomphe, avec Marius et Fanny. Il se tourne ensuite, pendant 20 ans, vers le cinéma, en réalisant Angèle, à 39 ans, puis César, le Schpoons, avec Fernandel, la femme du boulanger, la fille du Puisatier, Topaz, Manon des Sources, c'est un grand cinéaste, hein, oui. Marcel Pagnol. Et puis à plus de 50 ans, il revient vers le théâtre avec deux pièces, Judas et Fabien, mais sans grand succès, il arrête donc assez vite les frais. Et à 62 ans, c'est en tant qu'écrivain qu'il atteint la gloire, grâce à ses souvenirs d'enfance, la gloire de mon père d'abord, puis le château de ma mère, puis l'eau des collines à 68 ans, le temps des secrets enfin, qui restera inachevé et paraîtra après sa mort. Alors ces trois Pagnols, l'auteur de théâtre, le cinéaste et l'écrivain, on a tendance à les confondre et pourtant, il y a entre 30 et 40 ans qui les séparent. Est-ce que c'est le même ?
Alors c'est le même et c'est quelqu'un de très différent. Il y a deux prismes. Oui, c'est le même parce que ces trois époques en fait sont naissent de sa curiosité permanente. C'est-à-dire qu'il voulait réussir, il est donc monté à Paris, il devient le prince du théâtre, et quand il entend parler du cinéma parlant, il se dit mais c'est formidable, on va pouvoir entendre murmurer au fond de la scène, en fait le public qui se trouve au dernier rang va pouvoir maintenant voir un acteur murmurer. Donc il est très intéressé et il part vers cette nouvelle aventure. Et pourquoi est-ce qu'il quitte le cinéma ? C'est parce que les majors deviennent très 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 importants, qu'il faut que ça devienne de très gros budgets. Il a plus cette liberté qu'il avait justement de partir avec son équipe dans les collines. Et c'est là aussi, avec des drames personnels, mais en tout cas c'est là aussi qu'il décide de se tourner vers l'écriture. Donc il y a une logique de continuité par la curiosité. Il disait « moi j'aurais aimé être n'importe qui au XXIe siècle ». Donc il y a cette logique, j'allais dire, de l'homme. Maintenant, le créateur, c'est aussi quelque chose de qui le caractérise. Par exemple, dans la littérature, c'est que vous avez quand même très peu de littérateurs. Je pense qu'il y a Victor Hugo, Camus et Sartre qui sont en fait les seuls littérateurs à s'être essayés à tous les styles comme ça. C'est-à-dire que Pagnol, c'est à la fois le dramaturge, le mémorialiste, le romancier. Il y a Cocteau aussi peut-être, oui. Mais quand on regarde en fait tous les grands écrivains, ils ne sont pas aussi nombreux à s'être essayés avec bonheur et succès à tous ces genres littéraires. Et Pagnol, c'est un touche-à-tout. Et c'est vrai que vous avez cité l'eau des collines et les souvenirs d'enfance. Ce sont deux façons d'écrire très différentes et dans lesquelles il a eu un immense succès aussi.
Il y a des thèmes récurrents, oui, chez Pagnol, hein, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Est-ce que ces thèmes s'adaptent à tous les genres, justement ? Par exemple, il y a le thème « on est faible quand on est pur ». Mm-hmm. Ça, vous notez que c'est présent à la fois dans Topaz, dans le Schpoons, mm-hmm, dans La gloire de mon père, dans, mm-hmm, Jean de Florette.
Bien sûr.
Oui, donc ça se répartit assez, oui, bien, hein, oui, dans tous les genres auxquels s'est adonné Marcel Pagnol au fur et à mesure des années.
Bien sûr, et je prends le thème de ce qu'on appelait à l'époque la fille mère, qui frémit en fait dans toute son œuvre. C'est un thème qui puise évidemment sa source dans la réalité, puisque c'était le cas d'Augustine.
Alors oui, c'était une des informations qu'on a dans votre livre, oui, Carinane, c'est que si le thème de la fille mère revient à la fois dans Angèle, dans Marius et Fanny, dans Naïs, dans Regain, dans La fille du Puisatier, dans Jean de Florette, puisque la mère de Jean de Florette l'a eu sans être mariée, c'est pas parce que la mère de Marcel Pagnol, elle-même, était tombée enceinte du père de Marcel Pagnol, mais avant qu'ils soient mariés. Et ils ont eu un bébé qui n'a pas survécu. Né avant Marcel.
Donc. Voilà, et on se doute bien qu'à cette époque, ça a été très difficile pour Augustine, et Pagnol en voulait un petit peu à Joseph, en fait, de lui avoir fait subir ça.
Mais comment l'a-t-il su? Est-ce qu'on sait?
Ah non, alors ça par contre je n'ai pas cette information-là, mais en tout cas il le savait, ça c'est une évidence. D'ailleurs il est beaucoup plus... Augustine est un personnage dans les souvenirs d'enfance qui est sans tache, c'est une sorte de vierge pure, elle est magnifique, elle est fragile, il l'aime, il est plus dur avec Joseph. Et on voit que quand effectivement il lui fait dire que c'est toi qui m'as fait cela, mais jamais je n'arriverai à mettre cet enfant au monde, etc. Évidemment c'est une transfiguration, c'est l'imaginaire de l'écrivain. Mais pour revenir à ce que vous disiez très justement, on se rend compte que ce thème, il va le convoquer dans chaque département, j'allais dire,
au théâtre, au cinéma,
dans ses souvenirs et dans son roman, puisque vous soulignez effectivement le cas des Soubérans dans l'eau des collines. Et en fait, même quand il va aller emprunter des œuvres comme chez Zola avec Naïs ou chez Giono avec Angèle, on aura encore ce thème-là.
Exactement.
Donc c'est vraiment quelque chose qui va le hanter toute sa vie. Et j'en profite d'ailleurs pour dire une chose, c'est que contrairement à ce que certains disent de Pagnol en disant mais oui, cette espèce de culpabilité, alors ils prennent évidemment la scène de la femme du boulanger, te voilà, garce, salope, etc. Oui,
qui est la femme adultère.
Qui est la femme adultère, voilà, la pécheresse à qui on jette la première pierre. Ça n'est pas du tout le prisme de Pagnol. En réalité,
non,
ces jeunes filles...
Pardonne,
non seulement il pardonne, mais ces jeunes filles, il les réhabilite. C'est elles qui sont porteuses vraiment de l'honneur. Fanny dit, quand on lui dit, mais ne dis pas à Panis que tu es enceinte, elle me dit, mais ça serait ça, le vrai déshonneur. Donc c'est elle, en fait, qui va...
Oui, mais là, vous confondez la femme adultère et la fille mère. La fille mère...
Oui, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on entend des gens... Oui, vous avez tout à fait raison. Mais quand on entend des gens dire, oui, alors cette espèce de culpabilité de l'enfant hors mariage, mais c'est un contresens manifeste de l'œuvre de Pagnol,
mais
au contraire.
Vous faites remarquer, Karinane, qu'il est toujours... Il idéalise les mères, Pagnol, dans la plupart de ses œuvres. Pas les pères, vous l'avez dit. Les géniteurs sont rarement là au moment où l'enfant paraît.
Oui, et alors le contre-exemple serait Honorine, mais Honorine, elle a quelque chose de très masculin, en fait, la mère de Fanny. Voilà. D'ailleurs, elle dit à un moment donné, j'ai été son père. vous avez tout à fait raison. L'enfant, et c'est là où c'est très joli, et d'ailleurs, c'était le cas aussi dans sa vie, puisqu'il a eu des enfants hors mariage avec des femmes qu'il a aimées. L'enfant, c'est la marque de l'amour, en fait. L'enfant paraît lorsque l'amour est là. En fait, c'est vraiment le fruit de l'amour, l'enfant. Et c'est pour ça que cette jeune fille, même si aux yeux de la société elle est déshonorée, elle se bat pour cet enfant, elle reste debout pour cet enfant. Et ce que j'adore chez Pagnol, c'est qu'en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Ce que prône Pagnol, c'est le courage.
Compris pour l'homme de revenir.
Voilà, mais c'est en fait... Oui, l'amour, c'est prendre un risque. Oui, l'amour, on peut souffrir, mais faut y aller. Parce que c'est ça la vie. Et ça, chez Pagnol, ce courage de vivre, il est en chacun de ses personnages et c'est ça qui le rend magnifique.
Il y a le choix des mots chez Pagnol. C'est un conteur et un dialoguiste aussi
magnifique.
Extraordinaire.
Ah oui, vraiment.
Et il y a beaucoup de poésie.
Énormément. Énormément. Et la poésie est parfois, j'allais dire, contrée, mais dans le sens noble du terme, par l'humour. C'est-à-dire que quand ça devient trop poétique et qu'on pourrait basculer dans une sorte de drame, immédiatement l'humour, Pagnol citait Bergson en disant « il n'y a pas de plus grand ennemi à l'émotion que le rire », immédiatement Pagnol nous fait rire. Donc il y a toujours cette alternance entre humour et poésie qu'on retrouve dans toute son œuvre et qui est l'une des marques de son style.
La Provence est toujours là. Est-ce que c'est un écrivain régionaliste?
Non, 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 surtout pas. Giono était un écrivain régionaliste et c'était assumé d'ailleurs chez lui. La Provence de Pagnol, c'est une Provence sublimée, c'est un topos littéraire, c'est une sorte de refuge qu'il nous décrit en réalité. D'ailleurs, la Provence de Giono n'est pas celle de Pagnol, celle de Giono est plus au nord. Et Pagnol est quelqu'un qui dit l'universalité, on l'atteint en restant chez soi. Mais oui, parce que c'est ce microcosme provençal est à l'image en réalité du macrocosme. Et les sentiments évoqués par Pagnol, le maître mot étant l'amour, l'amour d'un père pour son fils, l'amour d'une femme pour un homme, l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour d'une terre, l'amour d'un pays, l'amour d'un travail. Tout ça, c'est le dénominateur commun. Et cette Provence, elle est là pour être le creuset, justement, de son imaginaire.
Là où ils se rejoignent peut-être, Giono et Pagnol, vous voyez dans l'œuvre de Pagnol, une épopée du pain.
Oui,
la femme
de l'eau.
Du boulanger, hein, qui est au départ
une nouvelle
de Giono. On se souvient que le boulanger refuse de continuer à faire du pain tant que sa femme ne reviendra pas.
Oui.
Et puis, il y a une épopée de l'eau aussi, dans Regain, qui est là aussi un texte de Giono adapté au cinéma par Pagnol, mais aussi dans Jean de Florette ou dans La fille du Puisatier.
Oui, et pourquoi j'emploie le mot d'épopée ? Parce que quand vous allez sur l'eau des collines, hein, où là, vraiment, l'eau est un véritable enjeu, encore plus que dans la femme du boulanger, parce que là, c'est tout un village qui est privé d'eau, il y a ce retournement à la fin, où en fait, le César Soubéran découvre qu'en réalité, il a tué son fils. Et Jacqueline Pagnol m'avait dit...
Jean de Florette
était son fils. Et Jacqueline Pagnol m'avait dit... Marcel a eu l'idée de ça à la fin. Il était en train d'écrire. Un matin, il est descendu, il dit « Je viens d'avoir une idée. » Et là, on bascule dans quelque chose de fondamentalement tragique, en réalité. Et il y a quelque chose des atrides, en fait, chez les Soubérans. C'est-à-dire, ils se tuent entre eux à l'arrivée. Donc, là, effectivement, on a une dimension. C'est pour ça que j'emploie le mot d'épopée, parce qu'on atteint au drame absolu, en fait.
Merci, Karine Anne. Je renvoie à la lecture de votre livre, Marcel Pagnol, Un autre regard. Il vient d'être réédité en poche chez Litos pour les 50 ans de la mort de Marcel Pagnol.
Merci à vous.